ramifications dans tout le monde arabe.
Merci bien, John Lyndon. Une actualité que nous allons donc décortiquer avec nos invités. Cap d'emblée sur la Tunisie, là où se trouve Mourad Selamni, rédacteur en chef de Dune Voices. Il est en ligne de Tunis, la capitale. Ibrahima Kane est lui à Dakar, la capitale sénégalaise. Il est le directeur du bureau de plaidoyer de l'ONG Open Society Foundations auprès de l'Union africaine. Il est via Skype. Et puis, ici même, dans la capitale américaine, nous rejoint Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University de Washington, D.C. Mourad Selamni, je commence par vous, bien évidemment. Le calme continue-t-il à prévaloir ce jeudi après les affrontements qui ont éclaté lundi dernier devant le Parlement entre partisans du président Saïed et ceux du parti Ennahda?
Bonjour. Ben, je tiens d'abord à préciser qu'il n'y a pas eu de véritable affrontement devant l'Assemblée. Mmh. Il y a eu juste des manifestants pour Ennahda, et je parle de 200 ou 300 personnes, et de l'autre bord, 200 ou 300 personnes de pro-Saïd. Mmh. Il n'y a jamais eu d'affrontement, la police était au milieu, et chacun criait ses propres slogans.
D'accord.
C'est dire que la rue tunisienne n'a pas connu de violence. Il y a eu certainement dimanche des manifestations, quelques manifestants qui ont brûlé, qui se sont attaqués à deux bureaux de Nava, mais ça a été vite fermé par la police et ça a été vite contrôlé. Donc, ce que l'on peut conclure concernant les derniers développements en Tunisie, c'est que hormis les descentes dans la rue de dimanche soir suite à l'annonce du président de s'octroyer ses pouvoirs aussi. Et la manifestation le lendemain, c'est-à-dire lundi, devant la santé de, comme j'ai dit, quelques centaines d'islamistes demandant le rétablissement de l'autorité de l'Assemblée, depuis, c'est le calme plat dans la rue tunisienne, ni en faveur, ni en défaveur des décisions de Saïd. La Tunisie poursuit son bonhomme de chemin.
Oui.
Et il est vrai qu'il y a eu quelques débats sur...
On va en parler dans un instant, Mourad Selamni. Évidemment, il y a pas mal de médias qui rapportaient ces heures dès le début de la semaine. Et d'ailleurs, on a vu ces images à l'antenne. Ibrahima Kane, les réactions à ce coup de théâtre ont été immédiates de la part des États-Unis et de l'Union européenne, ou encore des pays comme l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et la Russie. Pas vraiment le cas du côté de l'Union africaine et de l'ONU. Pourquoi, d'après vous?
L'Union africaine a quand même publié sur le site internet de l'institution un communiqué où le président de la commission appelle au calme et demande aux autorités tunisiennes de respecter la constitution, de respecter les droits de l'homme et de tout faire pour éviter la crise. Je pense que cette réaction plus ou moins timorée est dictée par des considérations à la fois politiques qui sont liées à la nécessité pour la région d'abord de trouver une solution à la crise avant que la crise ne vienne au niveau du continent, et puis aussi par le souhait du président de la commission de ne rien faire pour marcher sur les plates-bandes des acteurs de l'Afrique du Nord qui ont quand même commencé à agir. Le Maroc et l'Algérie ont renvoyé leur ministre des Affaires étrangères,
ouais.
Et le président de la commission lui-même a parlé au ministre des Affaires étrangères de la Tunisie pour discuter de la question.
D'accord.
Je pense que c'est le wait and see.
Emilio Viano, je le disais un peu plus tôt, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a téléphoné au président tunisien Kais Saied dès lundi pour lui demander de respecter les principes démocratiques après le limogeage du chef du gouvernement Hichem Mechichi et la suspension du Parlement pour un mois. Quelle lecture faites-vous de la réaction du gouvernement américain? Pourquoi a-t-il réagi aussi rapidement et pourquoi est-il aussi inquiet des événements de ces derniers jours en Tunisie?
On peut dire que la Maison Blanche et les départements d'État ont publié des déclarations soigneusement conçues pour éviter de prendre parti. On peut le voir dans la déclaration de l'attaché de presse de la Maison Blanche, Psaki, qui a déclaré que les États-Unis étaient préoccupés par le développement en Tunisie, a déclaré que les responsables de l'administration étaient en contact avec les dirigeants tunisiens pour en savoir plus sur la situation, appeler au calme, soutenir les efforts tunisiens pour aller de l'avant conformément aux principes démocratiques. La même chose avec le porte-parole du département d'État, Ned Price, qui a publié une déclaration similaire. Les États-Unis continueront de se ranger du côté de la démocratie tunisienne, évitant la question de savoir quel parti, selon l'administration Biden, représente la cause démocratique. La même chose, comme vous avez déjà dit, le secrétaire d'État Anthony Blinken. Ainsi qu'il est clair que les responsables américains jouent la sécurité et attendent de voir comment les choses se déroulent avant de faire des déclarations fortes. Psaki, de la Maison Blanche, par exemple, a également déclaré que l'administration Biden ne serait pas en mesure de déterminer si les actions de Saïd constituaient un coup d'État, tant que l'équipe juridique du département d'État n'aurait pas examiné la situation. Ainsi que il semble qu'il attend de voir comment se déroule la situation très fluide, espère de travailler avec Saïd plutôt que de l'aliéner. On peut dire que l'équipe Biden semble suivre le jeu de l'administration Obama, qui préférait livrer des messages durs en privé et estimer que les menaces publiques étaient contre-productives.
D'accord. Mourad Selami, revenons un peu en arrière, si vous le permettez. Qu'est-ce qui a déclenché ce coup de force du chef de l'État? Que reprochait-il au gouvernement de Hichem Mechichi, de même qu'à Ennahda, ce parti d'inspiration islamiste majoritaire au Parlement?
Le président Saïd et le peuple tunisien, finalement, reprochent au gouvernement de n'avoir pas résolu les crises persistantes traversées par la Tunisie. La Tunisie est au bord de la faillite financière. La Tunisie a enregistré, comme vous l'avez dit, 8% de taux de croissance négative. La Tunisie n'arrive pas, l'État tunisien est pratiquement très faible, il n'arrive plus à imposer ses programmes économiques, ses programmes de redressement économique. La politique, finalement, c'est d'abord des résultats. Et au bout d'une décennie de transition démocratique en Tunisie, le peuple tunisien s'est senti loin des objectifs loin de ses objectifs heureux d'une belle transition démocratique faite pour les libertés, mais aussi pour lutter contre le désarroi économique, contre la pauvreté, pour regagner un peu sa dignité. C'est un peu ça, finalement. D'accord. C'est d'une part. D'autre part, le président Saïd, depuis 2019, en Tunisie, on a obtenu des résultats électoraux très mitigés. Le parti Ennahda n'est pas majoritaire au Parlement. Le parti Ennahda n'a obtenu que 25% des sièges du Parlement. Donc, le Parlement tunisien est très émietté politiquement. Il n'arrive pas à installer une majorité stable autour d'un gouvernement. Donc, il y a eu des problèmes politiques en Tunisie, notamment cette année en 2021, lorsque Mechichi a essayé de faire un remaniement.
Mourad, si vous me permettez, malheureusement, le temps passe très vite. Le chef de l'État a également évoqué des périls imminents auxquels était confronté le pays pour justifier le gel des activités parlementaires et le renvoi du Premier ministre. Que voulait-il dire par périls imminents, très brièvement, si vous pouvez?
Le péril imminent, c'est un péril d'abord sanitaire, puisque la Tunisie est parvenue à des ratios quotidiens de décès Covid très inquiétants.
Oui.
Nous sommes parvenus à plus de 300 décès jour pour une population de 12 millions d'habitants, qui est très néfaste sanitairement. Nous sommes sur le bord de la faillite financière. Nous avons des échéances d'un milliard de dollars entre le début et la fin de août, le 500 millions de dollars, et le 25, 500 autres millions de dollars.
D'accord.
Donc la Tunisie n'a pas réussi ses négociations avec le Fonds monétaire international. Et aussi sur le plan économique, sur le plan socio-économique.
Bon, dans les grandes lignes, c'est ce qu'il voulait dire. Ibrahim Akane, vous me disiez hors antenne que votre ONG s'est penchée sur cette nouvelle crise tunisienne lors d'une réunion dès le début de la semaine. Nous allons parler d'une éventuelle sortie de crise dans quelques minutes. Mais d'abord, dites-nous comment la Tunisie en est-elle arrivée là, de votre point de vue? Qu'est-ce qui ressort de votre réunion à ce propos, dans les grandes lignes, si vous pouvez?
Je pense que le constat a même été fait par mon interlocuteur tunisien. C'est ce qu'on constate en Tunisie, c'est l'échec de l'islamisme politique. L'islamisme politique qui a toujours été au devant, qui a dominé la vie politique de la plupart des pays de l'Afrique du Nord, est un échec lorsqu'il s'agit de gérer un État. On l'a vu en Algérie, on l'a vu en Égypte, et on le voit maintenant en Tunisie. Mais le drame, c'est que quelle alternative à ces mouvements islamistes dans le pays? En Tunisie, c'est le président qui essaie de s'imposer en alternative, mais il est seul. Il n'a pas de parti. Il pense qu'il peut jouer la population contre les partis politiques. Ce n'est pas possible. Et dans le cadre de la Tunisie aussi, un autre point important à souligner, c'est la faiblesse des corps intermédiaires. On avait en Tunisie une institution qui était vraiment au cœur de toutes les solutions aux problèmes du pays, c'est l'UGTT. L'UGTT aujourd'hui vit une situation difficile parce qu'elle n'a plus le leadership qu'il avait avant. Et ceux qui le dirigent actuellement n'ont pas l'aura que les anciens dirigeants avaient. Et donc, on se trouve dans une situation assez inquiétante. Et c'est là où on vit le problème. Il n'y a pas d'effort des uns et des autres pour essayer de trouver une solution commune.
Chers invités, restez avec nous. Je vous propose maintenant deux commentaires à Facebook. Hassan Omar Boulalé de Djibouti. Quand une dictature disparaît, l'instabilité politique et le problème social s'installent. Il faut combattre les dictatures en Afrique et ailleurs avant de toucher le fond. Archiduc Théodore de Djamena, la révolution, fruit d'une partie du peuple abandonnée, est déviée au profit des anciens pions du système qui cherchent le confort. N'allez nulle part ailleurs, s'il vous plaît. La suite du Washington Forum après cette courte pause. toujours avec vous dans Washington Forum. Un coup de projecteur sur les multiples crises en Tunisie. Nous allons retrouver nos invités dans très peu de temps, mais d'emblée, quelques réactions de Tunisiens aux dernières décisions du chef de l'État, Kais Saied.
Je pense que le peuple accepte ce qu'a fait Kais Saied. Pourquoi? Parce que le résultat sera dans l'intérêt du peuple, quoi qu'il se passe. En Tunisie, la dictature et le gouvernement des militaires ne fonctionnent pas. Ce n'est pas possible pour le peuple tunisien tant que c'est lui qui décide.
On craint un peu ce qu'il peut advenir de revenir à l'époque de Ben Ali. Maintenant, il y a un seul pouvoir. C'est le président qui a le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
C'est un sauvetage, véritablement, parce que dernièrement, tous les Tunisiens ont vu que la situation économique et sociale s'est beaucoup détériorée avec les mesures d'État en place depuis des années qui n'a pas pu répondre aux attentes du peuple. C'est pour cela que le temps est venu pour le changement.
J'espère que tout ira bien, j'espère que le futur sera bon. Il a fait un pas très bien, très positif, et j'espère que l'avenir va aller de mieux en mieux.
Le parti Ennahda dit que c'est un coup d'État contre la Constitution, car le président a vu qu'il y avait des mesures exceptionnelles en l'absence de la Cour constitutionnelle. Les mesures exceptionnelles que le président prend dans le contexte d'un danger grave doivent être destinées à protéger le pays, ce qui lui est permis après avoir consulté le président du Parlement et le Premier ministre. Mais rassembler toutes les autorités dans sa main et former sa propre interprétation de l'article 80 en l'absence de la Cour constitutionnelle ne peut être qualifié autrement que de coup d'État.
Comme promis, nous retrouvons nos invités. Alors, nous avons via Skype de Dakar, Ibrahima Khan, directeur du bureau de plaidoyer de l'ONG Open Society Foundations auprès de l'Union africaine. Ici même, dans la capitale américaine, Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University de Washington, D.C. Et de Tunis, nous rejoint Mourad Selami, rédacteur en chef de June Voices. Mourad Selami, pour rappel, le président Saïd a suspendu le Parlement pour 30 jours. Il a également limogé le Premier ministre et deux autres membres influents du gouvernement, entre autres. Le chef de l'État compte-t-il nommer un nouveau chef de gouvernement rapidement? A-t-il fait part d'une feuille de route pour la suite?
On attend la nomination d'un chef de gouvernement dans incessamment, c'est-à-dire peut-être aujourd'hui ou demain, il y aura nomination d'un chef du gouvernement et d'un nouveau gouvernement pour... Il a déjà entrepris des négociations avec les grandes organisations nationales, c'est-à-dire la centrale syndicale et la centrale patronale. Il a déjà fait des entretiens, donc il y aura sûrement une feuille de route, un gouvernement d'ici dans les prochaines 48 heures et une feuille de route tout de suite après.
Ah bon, prochaines 48 heures. Mais Mourad Selami, que risque-t-il de se passer si les activités du Parlement ne sont pas rétablies dans le délai de 30 jours prescrit par la Constitution?
La Constitution dit aussi que ces 30 jours peuvent être étendus de 30 autres jours. Et cela a été annoncé par le bâtonnier des avocats qui a rencontré le président de la République, qui a dit que la Constitution permet une extension de ses durées.
Ah bon? Mais il ne compte pas faire cela quand même, prolonger à chaque fois ce délai?
Tout dépend des développements, parce qu'entre-temps, il faut pas oublier une chose, c'est qu'en Tunisie, il y a eu des infractions électorales lors des élections de 2019 qui ont été pas prises en considération par la justice, et bien qu'il y a eu des infractions. Et ça, c'est un problème très compliqué.
D'accord.
Tout dépendra des développements de toute la situation politique en Tunisie.
D'accord. Ibrahima Khan, quelle sortie de crise voyez-vous pour ce pays?
Alors, sortie de crise, il n'y a que par le dialogue. Les décisions qui ont été prises dans le cadre de l'article 80 ont des limites. même des limites temporelles. Donc, même si le président de la République reconduit les 30 jours, il arrivera un moment où le Parlement reprendra ses activités. S'il nomme un nouveau gouvernement, il faudra que le Parlement vote la confiance à ce nouveau gouvernement. Et donc, dans les conditions actuelles, je ne vois pas comment ce Parlement-là pourrait obtenir un vote de confiance de l'Assemblée nationale, d'autant plus que le président s'attaque au parti majoritaire au Parlement. Donc, la seule voie qui se présente à l'heure actuelle, c'est la voie du dialogue entre les différents acteurs. Vous pouvez, parce que chacun a y gagné et chacun aussi a à y perdre. D'abord, le président de la République, là, a à perdre, parce que s'il continue dans cette voie, on risque de se trouver dans une situation de changement anticonstitutionnel de gouvernement et la Tunisie pourrait même faire l'objet de sanctions de la part de l'Union européenne, d'une suspension par exemple. Pour Sanoussi, c'est l'avenir du mouvement Ennahda qui est en jeu. Parce que s'il continue à avoir cette attitude de défiance, ça va renforcer le sentiment anti-Ennahda dans le pays et ça va lui valoir peut-être un échec électoral très bientôt. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été le premier à appeler à un dialogue, à une discussion. Et je pense que les institutions, les corps intermédiaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'UGTT, les associations de défense des droits de l'homme, qui ont quand même certaines auras dans le pays, doivent aussi jouer leur participation pour qu'un dialogue se noue. On ait un minimum pour gérer la situation actuelle et aller probablement vers
le maître mot, dialogue. Emilio Viano, pour revenir au coup de fil du patron de la diplomatie américaine au président Saïd, Anthony Blinken a également promis le soutien américain à l'économie tunisienne et à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Un élément d'ailleurs clé dans les manifestations anti-gouvernementales dans le pays. Concrètement, comment cette aide pourra-t-elle se traduire sur le terrain et comment va-t-elle contribuer à changer les choses, à améliorer les conditions de vie des Tunisiens?
Je crois que ça aiderait beaucoup à démontrer que le gouvernement, même les partis politiques, sont efficaces pour relever les défis du pays. Seulement 20% des Tunisiens pensent ça maintenant. Et il y a sans doute la réalisation que les partis politiques, sont sans aucun doute une grande partie de la crise. Ils ne remplissent pas la tâche de représenter les intérêts de leurs électeurs et n'imposent pas le respect. Il y a des dizaines de partis qui existent désormais sur le papier et plus d'une vingtaine siègent dans une assemblée assez petite de 17 sièges. C'est-à-dire qu'il y a plus de partis très petites qui n'ont pas d'influence. Et ça, c'est très, très dangereux pour le pays, n'est-ce pas? Et c'est un échec de la démocratie. Je pense qu'une solution serait la réduction drastique du nombre de partis politiques en établissant, par exemple, un seuil de représentation, comme c'est le cas dans la plupart des démocraties. Un seuil, par exemple, de 5% exprimé éliminerait tous les partis sauf 5. Même un seuil de 2% éliminerait tous les partis.
Réduction du nombre de partis, messieurs, comme on dit, le temps file. On va suivre la situation indubitablement. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à tous nos invités, Ibrahima Khan, Emilio Viano, Mourad Selami. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Vous retrouverez Abdourahmane Dia dès jeudi prochain. C'était Jacques Aristide de Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care. On est bien, très bientôt.